Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Lambert et Monsieur Schaff m'a demandé de parler d'épilepsie et de génétique puisque cette matinée est consacrée à la recherche de la cause. Je vais juste préciser le cadre de cette intervention sans dévoiler le sujet, les sujets de mes collègues. Il y a des causes très très différentes en fonction du type de patient, c'est-à-dire que pour un patient qui a une épilepsie qui démarre à l'âge adulte, on aura des causes différentes de celles d'un enfant ou d'un nourrisson. Moi, je vais plutôt m'attacher à vous parler de l'enfant puisque c'est là qu'on a pour le moment le plus de données concernant l'épilepsie. À noter, comme vous l'a dit Monsieur Schaff, que la maladie épileptique de l'enfant, c'est une pathologie très très fréquente, effectivement. Hein. Et il y a aussi des épilepsies qui sont liées à l'âge et qui disparaîtront avec l'âge. Donc on a des enfants pour lesquels on peut déjà dire aux parents que passé l'adolescence, il n'y aura plus de crise d'épilepsie. Chez l'enfant, on essaye de raisonner le plus possible en syndrome, hein, d'essayer de bien étiqueter quel type d'épilepsie peut présenter l'enfant. Alors, quel est l'intérêt de rechercher la cause ? Il est évident pour les parents, c'est que si on sait déterminer exactement le syndrome, on pourra être plus précis sur le pronostic, leur dire si ça va être une épilepsie très active ou non, et surtout leur proposer le traitement adéquat, puisqu'on essaie toujours d'avoir le médicament le plus adapté en fonction de la situation, même si, bien sûr, chaque patient est différent. Et qu'on peut parfois avoir des patients qui ont des formes limites entre deux syndromes, et là on essaye vraiment de s'adapter et d'être le plus précis possible. Il y a deux cadres diagnostiques à mon sens. Il y a le cadre où l'épilepsie est finalement un symptôme d'une maladie neurologique déjà présente, qui peut être malformatif, comme vient de dire Marie, ou métabolique. Enfin, on a différentes pathologies de l'enfant pour lesquelles on peut avoir une épilepsie comme signe. Et puis, il y a aussi des enfants qui n'ont pas de maladie par ailleurs et qui déclarent une épilepsie qui restera isolée. L'enfant, c'est très particulier puisqu'il est en train de faire ses acquisitions motrices, verbales, scolaires. Et donc, il y a tout intérêt à ce que l'épilepsie puisse être traitée rapidement et ne pas interférer avec son développement. Et je vais vous montrer quelques exemples pour vous dire que dans ces deux cadres-là, que ce soit dans une maladie ou de manière isolée, on peut avoir un intérêt à faire des examens génétiques. Comme l'a dit M. Schaff tout à l'heure, il y a une progression exponentielle des connaissances dans le domaine de la génétique. Et ça a donné lieu en 2010 à la réunion d'une commission spécifique internationale pour essayer de mieux définir le cadre et de pouvoir expliquer finalement à chaque praticien à quel patient il peut proposer des examens génétiques. Alors la place, je dirais, de la génétique, l'épilepsie reste en 2011 un diagnostic qui est posé sur un faisceau d'arguments, donc à la fois les signes cliniques rapportés par le patient ou pouvant être consultés en hospitalisation, et aussi les signes de G. Et puis on a aussi donc l'imagerie qui peut nous aider, et la génétique peut trouver aussi sa place dans la recherche de la cause. Un exemple particulier, un syndrome du nourrisson où on peut avoir au départ des crises qui cliniquement ne sont pas spécifiques avec un enfant qui peut avoir au départ un développement tout à fait normal. On fait un EEG qui lui aussi est normal et une imagerie qui elle aussi est normale. Et c'est vraiment sur la poursuite finalement de l'épilepsie et la clinique qu'on va pouvoir suspecter ce syndrome qui a un retentissement important sur le développement et qui doit conduire normalement à la prescription de plusieurs médicaments antiépileptiques. Et donc, vous pensez bien qu'on est toujours hésitant à prescrire plusieurs médicaments chez un nourrisson. Il faut avoir vraiment des arguments forts pour le faire. Et dans ce type d'épilepsie, un gène a été identifié, et donc on peut s'aider effectivement en faisant cette analyse chez le nourrisson pour lequel on suspecte cette pathologie. Alors, l'autre intérêt, c'est qu'une fois qu'on a une étiologie bien posée, ben, ça permet aussi d'arrêter de faire des examens complémentaires qui peuvent être aussi source de désagréments pour le patient. Et donc, c'est vraiment une économie de temps, puisqu'il y a moins d'hospitalisation, moins d'examens et de moyens. Les parents nous posent souvent la question de la récurrence intrafamiliale, à savoir pourquoi mon enfant est-il épileptique ? Si c'est une épilepsie génétique, quelle en est la cause ? Comment est-ce que ça a été transmis ? Surtout si c'est le premier dans la famille, on se dit on me parle de génétique alors que dans ma famille, il n'y a encore eu aucun cas. Ça permet de répondre aussi à leurs questions concernant de futurs enfants. Est-ce qu'ils peuvent eux aussi être porteurs de ce même type d'épilepsie ? Ça peut permettre, dans certains cas, un diagnostic anténatal pour les couples qui le souhaitent. Et ça précise aussi le risque pour les apparentés, donc les frères et sœurs ou la famille éloignée. Donc ça a vraiment des répercussions profondes dans la famille. Il y a aussi un vrai intérêt scientifique, puisque le fait de pouvoir identifier une épilepsie particulière, pour laquelle on arrive à mettre en évidence une anomalie d'un gène, ça permet de comprendre finalement la voie de fonctionnement normale, puisqu'on sait à ce moment-là quelle est la protéine en cause, avec quelles autres protéines peut-être elle interagit, et pourquoi est-ce qu'on a une anomalie dans cette voie-là. Donc, et la meilleure compréhension des mécanismes physiologiques pourrait permettre de définir des cibles thérapeutiques beaucoup plus précises et pourquoi pas envisager un jour un traitement personnalisé comme c'est le cas actuellement pour les cancers et la génétique où il y a un vrai rôle de traitement. Je vous ai juste mis un exemple que Marie nous a montré tout à l'heure avec donc une anomalie du cortex, donc une lysencéphalie qui aurait pu être mise en évidence chez un nourrisson grâce à l'IRM. On découvre finalement une mutation en cause au niveau d'un gène qui s'appelle LIS1. Et le fait de pouvoir étudier précisément chez les patients porteurs de l'anomalie de LIS1 nous permet de mettre en évidence deux autres protéines, des voies donc métaboliques différentes, qui agissent aussi bien au niveau de la transmission finalement neurologique et donc du fonctionnement des neurones, mais aussi de la structure même du cerveau. Donc on a vraiment une meilleure compréhension de comment se forme finalement le cerveau et comment fonctionne le cerveau. Et on peut même l'extrapoler éventuellement à d'autres syndromes épileptiques. Donc je dirais que la connaissance dans un syndrome peut aussi permettre d'améliorer la connaissance dans d'autres types de maladies. Il faut tout de même bien préciser que les réactions face à la proposition d'un examen génétique sont très diverses en fonction des gens. Donc, ça nécessite toujours un entretien très personnalisé de génétique pour expliquer en quoi va consister la recherche, c'est-à-dire simplement une prise de sang habituellement, expliquer dans quel délai on aura les résultats et surtout expliquer ce qu'on attend du résultat pour le patient, pour sa famille. Et là, on a en fait plusieurs réactions possibles. Il y a des gens qui sont vraiment dans un besoin de comprendre pourquoi et qui ont une véritable angoisse liée à l'absence de connaissance de la cause. Et à l'inverse, il y a des gens qui disent « Non, moi, je ne préfère pas parce que une fois que j'aurai un diagnostic vraiment causal, pour moi, ce sera génétique, ça sera irréversible et je me sens finalement prisonnier de ce résultat. » Donc, c'est vraiment toujours quelque chose qu'on discute bien avec les patients et toujours, nous proposons également un soutien psychologique au moment de la consultation génétique. Donc, je vous ai dit, chaque patient est particulier. On connaît de plus en plus de choses sur les gènes, mais chaque gène peut avoir des anomalies différentes et donner finalement des expressions cliniques différentes. Et puis, certes, il y a un gène, mais on en a quand même beaucoup d'autres. Et on n'est pas, en tant que patient, résumé à un seul gène. Il y a aussi tout le reste du patrimoine qui peut tout à fait influencer l'expression. Donc tout ça, c'est tout à fait à prendre en compte également. Dans ce qui avait été émis par la Commission internationale, comme finalement pratique à tenir pour proposer de la génétique, ça concerne pour l'instant 11 syndromes de l'enfant, et 7 syndromes de l'enfant ou de l'adulte. Donc vous voyez qu'on n'a quand même encore pas beaucoup de causes génétiques dans l'épilepsie, puisqu'il y a beaucoup plus de sortes d'épilepsie que ça. Et ils évoquent également d'autres cas pathologiques, mais pour lesquels on n'a pas encore assez de preuves pour aller au diagnostic génétique en 2011 pour les patients. Mais je pense effectivement que c'est un changement permanent. Et donc, avant de proposer un test génétique, il y a toujours des questions à se poser, à savoir, si je fais ce test, qu'est-ce que ça va changer pour le patient? C'est-à-dire, est-ce que ça peut lui éviter des examens complémentaires, invasifs ou douloureux, ou une surveillance très accrue, alors que finalement, on pourra avoir une réponse? Est-ce que ce test peut changer le traitement ou alors le pronostic, puisque je saurai exactement à quel moment je devrais le surveiller? Est-ce que ça peut changer certains aspects psychologiques, ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir des patients qui sont soit angoissés par le fait de ne pas avoir de cause, ou au contraire qui préfèrent ne pas avoir de résultats génétiques. Et parfois, ce test peut aussi influencer les choix de procréation du patient, puisqu'il est en désir de savoir s'il va transmettre ce trait particulier à ses enfants et s'il peut le transmettre, par exemple, de façon plus grave aussi. Donc en conclusion, la pratique de la génétique clinique, je pense, va se développer en épileptologie, nécessitera toujours une information très spécifique. C'est vraiment un entretien très prolongé, hein, où on reprend toute l'histoire de la famille, hein, vraiment, toute l'histoire de la famille est mise en balance. Il y a toujours un consentement éclairé signé par le patient, ça c'est le cadre légal, c'est le minimum pour effectivement bien dire que l'information a été donnée. Les indications, vous le voyez, sont encore restreintes, mais peuvent, vraiment, ça peut être précieux dans certains cadres précis. Un gène n'est pas un individu n'est pas un gène, donc on a vraiment encore beaucoup de choses à connaître sur l'expression finalement génétique chez nos patients, et toujours avoir en tête la notion de bénéfice direct individuel pour les patients.